pour tout stériliser, ce qui va quand même détruire un certain nombre de vitamines qui, là aussi, vont se retrouver dans l'eau de cuisson. Donc, pour avoir tous les nutriments nécessaires quand on consomme des légumes en boîte, par exemple, il faudrait les consommer avec leur jus. Mais tu te doutes bien qu'il y a un petit couac, hein, parce que malheureusement, la plupart du temps, eh bien, ils vont rajouter du sel dans l'eau parce que c'est un très bon conservateur naturel, hein, le sel. Et du coup, c'est pas très très bon pour la santé. Des fois, il y a du sel, des fois, il y a du sucre aussi, selon comment. Donc, c'est pas forcément le mieux pour la santé.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors ?
Ben, ça veut dire que les légumes congelés sont en tête de ce classement.
Okay.
Si on part du principe que les fruits frais, on les a pas achetés chez le producteur. Mm-hmm. Parce qu'évidemment, sinon ça, c'est le numéro 1 et qu'il faut privilégier.
Donc si j'ai bien compris, si vous voulez vous faire un max de kiff et manger comme il faut aller chaque jour acheter les légumes qu'on consomme le jour même.
Bah, c'est-à-dire que tu peux acheter les légumes frais pour les 2-3 premiers jours de la semaine. Ouais. Et puis après, ça vaut la peine.
Bah, parce que tout le monde fait comme ça, on va le samedi faire ses courses pour toute la semaine qui arrive. Et donc les légumes perdent forcément en qualité au fil de la semaine.
Bah, par exemple, si on fait nos courses le samedi, on va acheter pour les fruits frais pour le dimanche, le lundi, potentiellement pour le mardi. Et ensuite, si on n'a pas le temps d'aller refaire des courses, eh bien, on va privilégier plutôt les légumes congelés. Parce que les légumes, en fait, ils sont généralement congelés tout de suite après la récolte. Donc, ils vont garder un maximum de leurs vitamines.
Ouais, bon.
C'est important de préciser qu'il ne faut pas décongeler ces légumes avant de les mettre à la poêle ou au four. Faut y aller franco. Parce que sinon, si on les fait décongeler, eh ben, ils vont commencer à perdre leur valeur nutritive.
C'est marqué sur l'emballage maintenant.
C'est vrai ?
C'est cuir congelé maintenant, ouais. C'est marqué.
Ah, j'ai jamais fait attention, je t'avoue. Mais donc voilà, on va pas se mentir.
Tu feras ça quand tu t'arriveras à lire.
Voilà, ça c'est fait. T'en as d'autres, des comme ça aussi ?
Non. Des aussi mauvaises, non. Je crois que je vais me mettre à genoux pour m'excuser, parce que c'est vraiment pas très sympa.
Voilà. Non, non, mais bon, tu sais, j'ai l'habitude. Et puis, comme on dit, lundi, tout est permis.
Ouais.
Enfin voilà, donc les légumes congelés, c'est facile à stocker, hein, sur le long terme. Et puis ça permet aussi de faire pas mal de belles économies, parce que ça coûte généralement moins cher que d'acheter tous nos légumes et fruits frais.
C'est vrai.
Donc voilà, il faut quand même se gaffer, et on va finir sur ça, qu'il y a une date limite pour les surgeler. C'est-à-dire qu'on peut conserver les légumes jusqu'à 12 mois au congélateur en moyenne, mais il y a des différences selon les variétés. Par exemple, le céleri et le réfort, ça se garde 6 mois, et les petits pois et les carottes, ça se garde jusqu'à 18 mois.
Ok.
Donc, faut bien regarder.
C'est surgelé, alors ça me réconcilie un petit peu, parce que quelquefois nous on fait le repas, mince, il manque des légumes, on va dans le congélo parce qu'on a plus de légumes valables, on en sort et puis en fait ils sont extrêmement bons pour la santé,
oui.
Et donc je suis très heureux.
Bon, voilà,
magnifique,
comme ça.
Merci beaucoup de m'avoir réconcilié avec les produits surgelés. Et puis là on va se poser des questions par rapport aux produits frais. Il faut
et de saison,
il faut faire attention quand on achète de pas en acheter trop, et puis d'aller se resservir chez le producteur directement ou chez le maraîcher une deuxième fois dans la semaine. C'est ce que j'ai retenu.
Oui, après on va pas commencer à être
si on veut faire bien, on n'arrive pas, mais si on achète
des fruits frais et des légumes frais au supermarché, il faut les consommer rapidement.
Mais ça évite aussi d'en acheter trop, parce que des fois on achète trop puis ça pourrit.
Exact.
Et puis après c'est perdu, donc autant aller deux fois dans la semaine comme ça, et ça fait du bien au porte-monnaie et aussi à la santé. Merci
Exactement.
Beaucoup Mélanie.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Voici les titres du journal.
Une 15e édition synonyme de succès pour la fugue chablaisienne. Hier, ils ont été environ 10 000 à découvrir les 16 aires de joute jalonnant le parcours de 36 km. On fait le point dans ce journal. 2500 m² de verdure, un espace de rencontre et de détente. Le parc Montséjour à Aigle a ouvert ses portes au grand public ce samedi. La police cantonale valaisanne organisait ce samedi un rallye didactique de prévention routière pour les motards. 150 conducteurs de deux roues de la région ont pris part à l'événement.
Le soleil est de retour et il continuera à briller demain. Météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Martine Vucinaire. Bonjour Martine.
Bonjour Axel, bonjour à tous. Et on commence ce journal avec Jennifer Setou, présidente du comité d'organisation de la fugue chablaisienne. Bonjour.
Bonjour Martine.
On va donc déjà revenir sur cette 15e édition de la FUC qui a eu lieu hier. On peut déjà parler d'un beau succès.
Oui, alors franchement, ça a été royal.
Vous êtes satisfaite, le beau temps était au rendez-vous?
Oui, le comité est vraiment satisfait de cette journée et puis de tout le déroulement et de tous les bénévoles. Enfin, ça a été vraiment une édition très spéciale et avec beaucoup, beaucoup de bonne humeur, quoi. C'était vraiment chouette.
Un événement qui visait, entre autres à l'origine, à fédérer le Chablais. Est-ce qu'on peut dire que c'est toujours une mission accomplie?
Oui, je pense. C'est une mission accomplie puis que les communes tiennent à cœur de faire perpétuer chaque année. Ouais, vraiment.
Bon, on parle de à peu près 10 000 participants. Pour vous, c'est une belle réussite. On peut encore en avoir plus de monde sur ces routes?
Je pense qu'on peut avoir encore plus de monde, mais c'est vrai que 10 000, c'est, je pense, depuis toutes ces années, c'est un peu le chiffre qu'on arrive à plafonner dès qu'il fait très beau. On a eu un peu moins l'année passée avec la pluie, mais on a eu énormément de monde quand même. Donc, je pense que 10 000, c'est peut-être le plafond, mais c'est toujours un challenge d'essayer d'arriver plus haut, ouais.
Un challenge aussi, l'itinéraire, chaque année, quelques modifications. Vous voulez innover tout le temps, c'est quelque chose aussi d'important pour vous?
Oui, pour nous, c'est important de faire découvrir d'autres chemins praticables, annuels, hein, parce qu'on ouvre des routes qui ne sont pas forcément ouvertes toute l'année au vélo, faire découvrir des petits coins pas forcément praticables toute l'année. Donc, c'est vraiment important que chaque année, on cherche un petit peu toutes ces petites routes pour notre plaisir.
Et puis, ben, on disait, de nombreuses communes qui ont participé, ça prend aussi toujours, vous arrivez toujours à avoir des partenaires et à créer des alliances entre eux.
Oui, alors ça aussi, c'est aussi un défi pour nous chaque année, hein, d'essayer de trouver des communes partenaires pour aussi varier notre parcours, mais aussi pour attirer plus de monde, les communes qui sont aussi partenaires, donc font beaucoup de pubs aussi chez eux, et donc ça aussi, ça amène du monde, donc pour nous, plus on est de fous, plus on rit.
Et puis une édition 2026 dont le rendez-vous est déjà pris?
Oui, le rendez-vous sera le 14 juin 2026.
Alors on espère pour le 14 juin 2026 une même météo qu'hier avec peut-être même pas d'orage.
Voilà, peut-être, mais bon, bah voilà, on ne peut pas tout avoir. Hein. On a eu la pluie l'année passée, cette année c'était un peu mitigé sur la fin, donc on a eu de la chance.
Merci beaucoup Jennifer, c'est tout. Je rappelle, vous êtes la présidente du comité d'organisation de la FUC Chablaisienne.
Merci à vous, une toute belle journée.
Un poumon vert au cœur de la ville d'Aigle.
La ville d'Aigle a fêté ce samedi l'ouverture du parc Montséjour qui était jusqu'alors fermé au public. Situé au centre-ville, à deux pas de la gare, cet îlot de verdure de 2 500 m² permettra à la population aiglonne de respirer, mais aussi, pourquoi pas, de se rencontrer. Stéphane Montangéro, municipal Aiglon, se réjouit de l'ouverture de cet espace offrant de multiples possibilités.
Ce parc, c'est simplement un espace qui est mis à disposition de la population. C'est un parc qui était fermé au public et qui a été réouvert par la municipalité afin d'en faire un lieu paisible, un lieu d'accueil, un lieu où on peut se poser, où on peut se reposer, où on peut passer. C'est un parc de verdure avec les magnifiques arbres centenaires et avec une sculpture de M. Estopé avec un vol d'oiseau. C'est un endroit qui amène à simplement rencontrer les gens, à pouvoir s'arrêter un moment, comme le temps passe très vite. C'est certainement un endroit où on va aimer s'arrêter.
C'était un sujet proposé par Basile Dayer.
Un rallye de moto organisé par la police.
150 motards de la région ont participé ce samedi à un rallye non pas de vitesse, mais de prévention routière. À l'initiative de cet événement, la police cantonale valaisanne qui souhaite inculquer une vision sécuritaire de la conduite tout en proposant une activité ludique lui permettant de se rapprocher des usagers de la route. Le sergent Laurent Détienne se réjouit de la portée que peut avoir cette action de prévention.
On a notre fidèle clientèle, des motards aguerris qui depuis de nombreuses années suivent les événements organisés en participation, du moins en collaboration avec la police. Mais étonnamment, d'ailleurs ce matin je me suis occupé d'une partie de ces inscriptions et puis j'ai rencontré plein de jeunes de moins de 20 ans qui s'intéressent déjà à la sécurité. Et pour nous c'est important parce que c'est eux finalement qui vont transmettre les bonnes instructions, les bons conseils à leurs collègues qui sont peut-être pas venus aujourd'hui, mais j'en suis persuadé qu'ils viendront l'année prochaine ou dans 2 ans.
Laurent Détienne était au micro de Basile Dayer. À noter que la police cantonale vaudoise organisera elle aussi un événement de sensibilisation pour les motards le week-end du 21 et 22 juin.
La situation se stabilise progressivement dans le Val de Bagne.
Frappée début juin par plusieurs laves torrentielles, la cellule de crise locale a validé la levée des évacuations pour le hameau des Épenais et la zone ferme du Fregnolet. Elle révèle que la fonte des neiges est en baisse et qu'il n'y a plus eu de laves torrentielles depuis le 8 juin et que les GPS témoins des mouvements en altitude ont baissé d'intensité. Sur place, une vingtaine de machines seront engagées toute la semaine. Dans la partie centrale du cône de déjection, les extractions se poursuivront et des travaux de minage devraient avoir lieu. La préparation de l'accueil du futur pont militaire a également commencé. Celui-ci sera construit en aval de l'ancien pont fusible du Fregnolet, emporté le 2 juin par une lave torrentielle. La création de la route d'accès ainsi que la plateforme en rive droite du Fregnolet est aussi en bonne voie, tout comme celle de rive gauche. Et près de 300 appels ont été adressés hier au service d'urgence neuchâtelois après le violent orage qui s'est abattu sur le littoral avec des vents soufflant jusqu'à 140 km/h. De nombreux arbres sont tombés et des routes ont été coupées. Les pompiers ont dû intervenir hier à 24 reprises. Des recherches préventives ont été effectuées sur le lac par les pompiers, la société de sauvetage du Balac et la police. Cette dernière est intervenue à une dizaine de reprises en soutien aux pompiers. Si le littoral neuchâtelois a été particulièrement touché, des dégâts sont survenus aussi à la Chaux-de-Fonds et au Val de Travers. Par ailleurs, le site du Festineuch a été évacué. Le festival et ses partenaires présents sur le site ont subi des dégâts considérables, encore impossibles à évaluer.
Les prévisions du SECO sont pessimistes.
Les bons résultats économiques du début d'année seront contrebalancés par un second semestre 2025 morose et une année 2026 incertaine. Ce matin, les experts économiques du SECO abaissent leurs prévisions de croissance à 1,3% pour 2025 et seulement 1,2% pour 2026. L'incertitude commerciale mondiale et géopolitique amène les experts à tergiverser. Ça pourrait être mieux, mais pire aussi. Le pessimisme est le plus probable. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Jubin.
L'anticipation de la hausse des droits de douane aux États-Unis a boosté la première partie de l'année dans le domaine tertiaire ou de l'industrie chimique et pharmaceutique, mais l'incertitude actuelle pèse lourd, même si les experts tablent sur des droits de douane de 10% avec les États-Unis comme actuellement. La croissance du PIB en Suisse ne devrait ainsi être que de 1,3% en 2025. Heureusement que l'activité intérieure du pays se porte bien grâce au taux d'intérêt bas et à une inflation nulle ou à peine positive à 0,1%. Les affaires ne devraient pas s'améliorer. L'année prochaine, au contraire, le SECO prévoit même une hausse modérée du chômage de 2,9 à 3,2%. L'incertitude conduit les experts à produire deux autres scénarios opposés. L'un s'appuie sur l'hypothèse d'une détente des relations internationales doublé de plans de relance massifs comme en Allemagne, avec un effet positif sur la croissance en Suisse aussi. À l'inverse, il faut prendre en compte le risque de voir les États-Unis imposer des droits de douane supérieurs à 10% avec un plongeon des marchés boursiers et un renforcement encore du franc suisse. C'est le scénario du pire qui péjorerait aussi la situation économique suisse. Les experts universitaires du COF zurichois partagent l'analyse des experts institutionnels du SECO. Jeudi qui vient, la Banque nationale donnera sa lecture de la situation.
C'était notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Retour au calme après la rave party bernoise illégale.
Les centaines de participants à la rave party illégale qui a eu lieu ce week-end dans un pâturage au-dessus de Malraix dans le canton de Berne ont quitté les lieux. Lors de sa visite, le maire de Valbirz n'a constaté aucun dégât sur la place de pique-nique. Les déchets ont été ramassés, mais l'herbe est piétinée. Jacques-Henri Juffer a toutefois rappelé que cette fête idée illégale a dérangé la faune et les habitants des communes de la vallée de Tavannes. Rappelons aussi que deux policiers ont été blessés samedi soir lors de l'intervention.
L'ONU demande de la modération aux États-Unis.
L'ONU appelle à ne pas recourir à la force militaire contre les manifestants aux États-Unis alors que les autorités civiles peuvent se charger de maintenir l'ordre. Sans le nommer, le haut commissaire aux droits de l'homme a ciblé Donald Trump aujourd'hui à Genève. Le FC Martigny Sport retrouvera la Première Ligue 2 ans après l'avoir quitté. Vainqueur samedi du CS Romontois 5-1, la formation entraînée par Hugo Razinski a pris le deuxième rang du championnat de deuxième ligue inter. Fortune inverse cependant pour l'US Colombais Murat. L'équipe chablaisienne s'est imposée 1-0 lors de l'ultime ronde, mais n'a pas pu éviter la relégation 12 mois seulement après avoir rejoint la 5e division helvétique. L'USCM termine 14e du classement avec 35 points.
L'équipe suisse de volley féminine poursuit sur sa lancée.
Elle conclut la Silver League avec un sixième succès en autant de matchs. Les protégées de Laurent Bertolucci ont battu l'Autriche chez elles 3-0. Elles ont gagné toutes leurs parties en trois manches. La Suisse affrontera en finale la Lettonie en match aller-retour. Le vainqueur sera promu en Golden League.
L'actu en continu, radiochablais.ca. Radio Chablais, programme de nuit.
Blanc. Large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Yoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Swiss Wine Promotion, la promotion des vins suisses. On va évidemment parler de ces missions avec vous aujourd'hui. On s'est donné rendez-vous à Saint-Trifon. Je suis dans une vieille ferme vigneronne du Chablais. Pourquoi ici ?
C'est ma maison de naissance, puisque j'ai fait toute mon enfance ici. Je suis né officiellement à l'hôpital d'Aigle, mais j'ai fait toute mon enfance et mes écoles ici dans le Chablais. C'est la maison familiale que mes parents habitent encore aujourd'hui et qui a été aussi mes grands-parents avant, etc.
Ça veut dire un domaine viticole autour ?
Agricole et viticole avec un peu environ un demi-hectare de vigne qui est là depuis les années fin des années 30. Et puis mon grand-père à l'époque était exploitant agricole avec de la grande culture principalement et du bétail qui a évolué. Aujourd'hui, il y a plus de bétail. La grande culture et les terrains sont exploités par d'autres paysans puisque mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Ils ont juste gardé la viticulture pour le plaisir et la transmission, on va dire, de génération en génération.
Ça sera votre... Vous allez reprendre cela ?
Alors oui et non, c'est pas du tout viable en l'état. C'est surtout eux, ils sont avant tout des producteurs de raisins qui fournissent une grande cave et un petit producteur. On produit depuis 2010 une petite cuvée familiale pour la symbolique d'un terroir. J'ai continué cette tradition, mais ça ne reste bien sûr plus un hobby, un plaisir avant tout.
Bon, ça vous donne. Moi, je vous ai connu alors à l'Office des vins vaudois, puis secrétaire général du mondial du Chasselas, maintenant suisse.
Mondial de Bruxelles,
oui, pardon, je les confonds. Mondial de Bruxelles qui se tenait à Aigle sur les terres du Mondial du Chasselas, mais évidemment une autre envergure. Alors ça vous a fait baigner justement dans cet univers de la vigne et du vin depuis que je vous connais. Avant ça, il y a eu d'autres expériences, mais cette connaissance intime de ce qu'est le métier de la terre, de ce qu'est la vigne, ouais. ça a mis une direction à votre vie. À votre carrière ?
Alors, initialement, j'ai commencé...
Intime et précoce, hein,
ouais,
enfance.
Précoce. Ouais. Alors, je pense que j'ai eu la grande chance depuis le début de toucher, de goûter à toute cette culture vitivinicole, puisqu'enfant, on entraînait dans les vignes régulièrement, on participait aux vendanges, on participait aussi avant, aux effeuilles principalement. On nous mettait un tout petit peu déjà dans le bain. Mais j'ai pas choisi cette filière quand j'ai fini mon école obligatoire. J'étais très passionné de cuisine. J'ai eu la chance de faire un apprentissage de cuisinier avec un complément en sommellerie à Villars-sur-Ollon, à l'Hôtel Victoria à l'époque, avec un chef qui était appelé Joël Quentin, qui était quelqu'un exceptionnel. Il était très connu surtout pour les herbes sauvages, la maîtrise des herbes sauvages. C'était une super équipe, une belle brigade.
Ça a été très à la mode, enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, mais je me souviens de la panne des Bossettes dans le canton de Fribourg, qui était renommée pour ça. Il y a eu toute une tendance comme ça à la fin des années 90.
Complètement, avec
aller chercher ces herbes dans la nature.
Le grand précurseur, c'était François Couplan, qui était le botaniste de renommée et qui a accompagné tous ses chefs. Et j'ai eu la chance, fin des années 90, de faire l'apprentissage avec Joël Quentin, qui m'a initié aussi à ça et qui m'a fait continuer l'envie de cuisiner. Je me suis déjà aussi beaucoup intéressé à ce moment-là à la sommellerie. Et puis, l'histoire a fait que j'ai pu partir à Genève faire mon école hôtelière, qui m'a aussi ouvert d'autres portes, d'autres ouvertures, qui m'a incité aussi à une autre découverte de l'hôtellerie-restauration. Et tout en gardant un lien avec le vin, toujours passionné, je dégustais énormément. Je prenais même dans mes vacances officielles et mes pauses, je prenais vacances en octobre pour venir faire les vendanges. Pour venir faire les vendanges, pas que dans la famille, mais également dans une cave qui est d'une amitié aujourd'hui, qui est Bernard Cavé, qui m'a toujours dit viens comprendre, viens faire.
Un des grands noms du terroir chablaisien.
Voilà, exactement. Et je venais prendre deux semaines, trois semaines de vacances pour travailler à la cave pour comprendre le millésime. Et c'était toujours une passion, je l'ai fait pendant 6-7 ans.
Vous n'êtes pas parti, hein. Souvent, l'école hôtelière, ça mène à Singapour, à Santiago du Chili.
L'envie était là. Ouais. Le marché à ce moment-là était radicalement différent. Et donc, j'ai eu une opportunité de partir à Gstaad en sortant de l'école hôtelière.
Ce
qui était très dépaysant et surtout un intérêt. Je me souviens à l'école hôtelière, lorsqu'on nous avait dit, il y a une opportunité, peut-être Gstaad, ça intéresse quelqu'un. Il n'y avait pas grand monde qui levait la main, j'étais un peu le seul, et parce que c'était la peur de ben ça va être en allemand, ça va être enfin c'est du suisse allemand, du berndeutsch, ça va aller. Et j'ai mis, on est là pour apprendre et pour développer. Alors c'est sûr que ça m'a beaucoup développé mes langues, ça m'a beaucoup développé aussi ce mélange culturel. Et je devais y aller pour 5 mois, j'y suis resté 3 ans et demi. Donc bon,
ça a donné une ligne capitale. Vous venez d'aborder les langues, hein. Aujourd'hui vous travaillez en Suisse alémanique, vous travaillez à Berne. Swiss Foreign Promotion est un organisme national, donc forcément vous pratiquez l'allemand au moins autant que le français, j'imagine, et l'anglais. Oui.
Je pratique 3 langues nationales sur 4 et l'anglais en plus. La chance
dans
aussi
dans le métier, je veux dire.
Dans le métier, ouais. Faut pas oublier. Alors
le
tessin et les italophones, mais pas seulement. Il faut penser aussi que sur les marchés internationaux, on n'a pas toujours une qui parle l'anglais, donc on a aussi des variations. Mais nous parlons et dans le bureau en français comme en allemand avec l'ensemble de mon équipe, puisque même si le vignoble est majoritairement francophone et latin, l'ensemble de la clientèle et de nos partenaires sont majoritairement germanophones. Donc
bon, le vin dans sa mise en valeur, hein. C'est un peu votre étiquette depuis que je vous connais, utilisons ce mot d'étiquette, après tout on est dans le vin. L'Office des vins vaudois, puis les expériences suivantes, c'est vraiment, on a un terroir, on sait ce qu'il vaut, on va essayer de le mettre en valeur. Ça pourrait presque être écrit sur la porte de Swiss Wine Promotion, c'est le job.
C'est une partie du job. Avant de dire juste le mettre en valeur, il faut qu'on a aussi un changement de société qu'on doit prendre en compte, et on doit arriver vers du consommateur, pas juste goûter cet terroir, mais prenez le temps de goûter quelque chose. On a un changement de société qui a radicalement changé avec les générations, et la promotion des vins suisses et la promotion régionale, parce que c'est exactement une déclinaison, elle doit aussi changer de cap et pas juste dire c'est un bon terroir, goûtez-le. Non, prenez le temps de découvrir ce que c'est que du vin, qu'est-ce que c'est qu'un produit issu de la vigne, et ça c'est quelque chose qui a manqué énormément dans une nouvelle génération. On a tendance à préjuger en disant les jeunes ne consomment plus comme nous, comme les anciens, c'est vrai, mais ils consomment pas beaucoup moins, ils veulent consommer différemment. Et donc ils ont surtout besoin de découvrir, qu'on les éduque un tout petit peu à cet art, cette culture vitivinicole.
C'est un besoin qui est exprimé, ou vous estimez qu'ils ont besoin de ça pour y venir?
C'est un besoin qu'on a analysé, on a étudié énormément aussi les consommateurs, on a besoin de comprendre si nos actions de promotion elles sont porteuses, si ce qui est produit imaginé correspond et a un impact. Et à cette réponse, on régulièrement tous les 3-4 ans on fait des études de consommateurs, et on a le signal assez fort de plus en plus qu'aujourd'hui la jeune génération cherche différemment et veut juste comprendre pourquoi on défend aussi cette culture vitivinicole, et que c'est pas simplement une belle carte postale sur le bord du lac. C'est pour y arriver, il y a un travail de vigneronne et de vigneron, et c'est ça qu'ils ont besoin, c'est une soif de connaissance avant tout, avant une soif de liquide.
Alors en amont de vos études fines, il y a un constat, c'est celui de la baisse de quantité consommée par les Suissesses et les Suisses, et je pense que c'est une tendance européenne.
Totalement.
Mais je n'en sais rien, voilà, vous
totalement
confirmez.
Mondial.
Les ministères de la Santé diraient que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si ça se répartit sur d'autres alcools, si c'est la diversité qui fait ça, ou s'il y a quand même un changement lié à la santé, à tout ce qu'on entend.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a une réalité, c'est que la prévention contre la surconsommation de produits alcooliques est extrêmement forte et justifiée, et porte ses fruits, puisqu'on voit qu'une des préoccupations premières du consommateur qui ne consomme même pas de vin, c'est pour des problèmes de santé. Donc bravo et tant mieux, parce que ça montre aussi qu'on est préoccupé par rapport à ça. Mais le vin ne fait pas partie de ce secteur-là. Le vin n'est pas une boisson alcoolique. Le vin contient de l'alcool. Vous avez entre 12 et 14% d'alcool dans du vin. Donc inversement, vous avez quand même un volume d'autres liquides bien plus important. La diminution de la consommation, c'est aussi des habitudes courantes aujourd'hui. Vous allez à midi dans un restaurant de village manger un plat du jour, vous allez pouvoir compter le nombre de personnes qui peut-être prendront un verre de vin. Il y a 20 ans en arrière, combien de personnes ne prenaient pas une bouteille ? On a un changement d'habitude et de société, et c'est ça aussi qu'il faut prendre conscience. Donc les produits qu'on a proposés évoluent également. Et puis, ce qu'il faut prendre aussi en compte, peut-être en plus, avant tout, c'est que ce que les vins, les types de vins qu'on consommait hier, ne sont plus les vins qu'on consomme aujourd'hui ou demain. On voit des trends très importants, le rosé aujourd'hui ou les mousseux sont devenus extrêmement à la mode, alors que dans les régions comme la Suisse, on avait peu d'habitude sur ce type de produit. Et j'aime toujours me rappeler...
Même méprisé à un moment donné les rosés.
Ah, hein, c'est exactement, je vais vous dire, ouais. C'est exactement ça. C'était le nombre de vignerons que j'entendais. Oh, je fais du rosé, mais bon, j'aime pas ça. Mais justement, mais... Il faut pas en faire si vous l'aimez pas. Faites ce que vous aimez parce que on va le ressentir dans le produit. Et aujourd'hui, on a des jeunes générations qui nous font des rosés exceptionnels parce qu'ils sont passionnés de ça. Et tant mieux. Et on a plaisir, nous, à les faire découvrir parce qu'on va le sentir dans à la fin. Le produit n'est pas un simple liquide. Le produit est une émotion. Et donc, on le sent de A à Z s'il a été fait avec plaisir, avec amour ou s'il a été fait par obligation.
Bon, il y a, on va revenir hein, sur toutes ces notions-là dans la deuxième partie de cette émission. Swiss Wine Promotion, c'est 6 régions viticoles, j'ai vu. Hein. On considère la Suisse alémanique comme une région. Vaud, Valais, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le Tessin?
Là, on va les prendre dans l'ordre, comme ouais. Ça, on est.
La, ça, vous êtes sûr de pas.
Voilà, pas les oublier. La plus grande région, c'est le Valais, suivi du canton de Vaud. En troisième région, on parle donc de Suisse alémanique, où on regroupe les 18 cantons suisses alémaniques ensemble, au niveau de la structure interprofessionnelle. Suivra après le canton de Genève, le canton du Tessin et la dernière région, c'est la région qu'on appelle Trois Lacs qui regroupe le canton de Neuchâtel, le Vuy, le canton du Jura et la partie bernoise, le Billerset, la partie du lac de Bienne qui est rattachée aux Trois Lacs malgré que c'est le canton de Berne. C'est un peu une différence entre la zone de Spitz au bord du lac de Spitz et de lac de Thun et de Brienz qui est rattaché à la partie suisse-alémanique, alors que le bord du lac de Bienne est rattaché aux Trois Lacs.
Ah, c'est très précis tout ça.
C'est très bien pensé.
Quand on a passé des années comme vous à défendre les vins vaudois, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez changé de job? Vous avez dû faire un petit lavage de cerveau. Vous vous êtes dit, il faut pas que je favorise mes anciens petits.
Ah, c'est pas des petits. On va être très honnête, ils ont une tradition millénaire.
Petit, pas dans le sens petit, dans le sens protégé. Voilà.
Je pense que c'était aussi une des craintes, peut-être aussi de mes collègues des autres cantons, puisque ouais. on se côtoyer régulièrement dans les commissions de coordination nationale. Il dit oui, mais si c'est Nicolas, est-ce que ça va être différent? Et je pense que mes deux ans au concours mondial m'ont apporté beaucoup cette séparation. J'ai vu un regard totalement différent, une approche où c'est pas la région qui m'intéresse, c'est l'authenticité de chaque région qui devient importante. Et l'expérience des vins vaudois m'a formé énormément pour justement apporter aussi cet équilibre entre les régions, parce que peut-être les gens ne savent pas, mais dans le canton de Vaud, il y a également des grandes nuances dans les vins, mais aussi dans les personnages du vin selon la région viticole. Nous avons toujours un peu des fois des tensions, des regards différents entre la plus grande région en surface, qui est la région de la côte, face aux deux régions à peut-être une notoriété différente, que sont Lavaux Patrimoine Mondial ou le Chablais. Et on oublie souvent les régions du Nord Vaudois qu'on négligeait un tout petit peu par le passé, qui ont des pépites extraordinaires, que soient les côtes de l'Orbe, le Bonvillard ou le Vuy canton de Vaud, qui est groupé aujourd'hui avec le Vuy fribourgeois. Mmh. Donc il y avait déjà cette tension, donc je reprenais un peu le même schéma avec un mélange là, contre deux langues, deux types de cépages et de cultures totalement différentes.
Culture du vin différente.
Culture du vin différente, puisque ben les habitudes en Suisse alémanique, par exemple, ne sont pas tout à fait les mêmes que au Tessin ou en Suisse romande. Et on avait, on va dire, les cantons historiques tradition avec le canton du Valais, le canton de Vaud, qui faisait face à la modernité du canton de Genève qui s'est réformé il y a très longtemps et qui apporte une diversité incroyable, et la partie alémanique où on a des jeunes générations qui, ben, il n'y avait pas d'historique ou pas de notoriété et qui doivent se défendre face à des traditions.
Bon, c'est étonnant hein, de voir à l'échelon suisse finalement les mêmes soucis que l'Europe avec ses différents terroirs, ses différentes cultures du vin, etc. C'est votre métier, c'est votre passion. On va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. À tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Nicolas Lyos, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On parlait de la variété hein, dans ce petit timbre-poste qu'est la Suisse au milieu de l'Europe et a fortiori la Suisse vinicole. Malgré cela, une grande diversité. C'est vrai qu'on a un terroir, j'imagine, qui correspond à une grande région espagnole ou une grande région française. Et puis là-dedans, on a des caractères très différents.
C'est un melting pot de culture et d'habitude et de cépages pour la Suisse. C'est extraordinaire quand on a plus de 250 cépages référencés en Suisse, près du
pas ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, pour la promotion, parce que je voyais ça de deux façons. Hein. D'un côté, il y a voyez la richesse et la diversité, puis de l'autre, il y a quand même une difficulté à mettre.
C'est une grande difficulté, tout à fait, parce que le fait, c'est qu'on a des petites productions pour chaque cépage. Alors, les 252 sont pas tous en production en vinification. On a environ pas tout à fait 90-95 cépages qui sont en production pour faire du vin. Mais même ça, c'est moins difficile. Alors, si vous avez des cépages internationaux et classiques, c'est un peu plus simple. Mais lorsque vous allez dans des cépages indigènes, et là, le canton du Valais en regorge énormément, ça devient vite une complexité pour sortir ces cépages hors de sa zone. Mmh. Par manque de disponibilité, par aussi difficulté d'explication aussi aux consommateurs. On a des cépages, il faut pas l'oublier, qu'on a supprimés avec le temps parce qu'on considérait qu'ils étaient plus commercialement justes ou difficiles à produire. Alors que, et maintenant, on a un effet en arrière. On revient avec des cépages indigènes historiques, ce qui, personnellement, moi, me réjouit. Je pense que la Suisse doit être fière de ce qu'elle a et pas toujours copier toujours ce que les autres ont fait. J'aime beaucoup les cépages du monde entier, mais j'avoue que quand on est en Suisse, les gens qui veulent goûter la Suisse, ils veulent goûter le cépage du terroir. Des chardonnays, on en a partout dans le monde. Ils sont seulement très bons en Suisse, mais très honnêtement, une petite Arvine est bien supérieure à beaucoup de nos chardonnays en Suisse. Il faut sortir notre identité. Ça, c'est la marque la plus difficile aujourd'hui.
On a cette particularité, hein, je le disais, d'un terroir petit, en plus très varié. Donc on peut pas dire le Riesling suisse comme on peut le dire pour l'Alsace, on peut pas dire tel cépage c'est notre cépage, et puis on a cet îlot de Cherté qui est la Suisse hein, au milieu de l'Europe. Donc ça cumule un petit peu les difficultés. J'ai regardé les quantités, alors vous me direz si c'est juste, on est à peu près à 100 millions de litres hein, par année dans une année pleine, dont 99% est consommé en Suisse, ou en tout cas 1% seulement est exporté hein. On éponge les 99%.
Alors, les années difficiles, comme on vient de vivre 2024, avec une vendange à 75 millions de litres, donc on est 25% dessous d'une année pleine, fausse radicalement aussi la consommation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que on produit en dessous de notre capacité pour maintenir un marché. Donc, il est difficile aujourd'hui de commercialiser du vin. Mais la réponse aussi, c'est de faut prendre les questions. Pourquoi on a de la difficulté? Il y a pas mal de choses qui sont face à nous. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure diminution de la consommation, une consommation qui change. On a aussi des défis climatiques très importants aussi à gérer la production. Et on a des habitudes et une concurrence étrangère qui est toujours bien là. Et vous parlez d'îlot de Cherté, il faut le prendre dans les deux sens. C'est pas qu'à produire, c'est surtout un consommateur suisse qui est prêt à payer un certain prix pour des produits. Donc l'attrait de l'importation est important parce qu'on produit beaucoup moins cher dans nos pays limitrophes, principalement pour les vins d'entrée de gamme. Et donc les marges sont extrêmement importantes pour les distributeurs. Donc tout d'intérêt à vendre des produits d'importation parce que les marges sont meilleures.
Pas le jeu, hein. On a tous dans nos boîtes aux lettres des journaux avec des promotions insensées sur des vins espagnols, français, italiens, etc. Quand ils ne viennent pas de beaucoup plus loin, Chili, Afrique du Sud.
C'est là où je joue pas le jeu et envie de dire peut-être c'est au consommateur de changer un tout petit peu le cap, parce que un revendeur, à un moment s'il a acheté un lot et il n'arrive pas à le vendre, il va arrêter de l'acheter.
Plus.
Donc c'est au consommateur à faire ses habitudes et à peut-être à changer ses habitudes. Aujourd'hui on a une société qui doit radicalement prendre un cap beaucoup plus éthique et beaucoup plus durable. Et quand on parle de durabilité, c'est pas que de l'écologie, c'est aussi du social. Par le prix d'achat auprès du producteur. Et c'est la raison économique, la dernière. Mais je venais sur le social, ce qui est assez incroyable. Je ne pense pas que le consommateur lambda, lorsqu'il achète une bouteille à 5 francs dans un grand distributeur parce qu'il est en action à 70% de rabais, il pense à un moment que peut-être c'est le bon prix auprès du producteur. Et ça, c'est une question aujourd'hui qu'on n'a pas pour le vin.
Et ceux qui travaillent chez le producteur.
Et ceux qui travaillent, exactement. On a vraiment cette sensation-là. En Suisse, on a des normes, des salaires minimaux pour l'agriculture qui sont déjà très bas pour vivre en Suisse. Mais au moins, il y a un vrai salaire
décent. 3 000 francs par mois.
3 400 francs.
En comparaison, en France, 1 500,
on est au SMIC, on a 1 400 euros, ouais. 1 500 euros. Et en Italie, pour autant, ça dépend des régions, on va être entre 800 et 1 200 euros. Ouais. Donc déjà, et ça, c'est quand le collaborateur, il est rémunéré et déclaré, et où à certains endroits du monde, on a des doutes quand même sur ce type de projet. Donc je pense que c'est aussi ça que les gens doivent prendre en compte aujourd'hui. Quand on voit un vin à 5 francs, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsqu'on voit que les vins suisses, certains sont bradés des fois dans ces prix-là par des distributeurs, on ne devrait pas être choqué de payer ce prix-là. Parce que ça veut dire qu'au début de la chaîne, le producteur, il n'a pas été payé.
Avec les abricots, avec toutes sortes.
Ça se limite pas au vin, exactement. Ouais. C'est tous les produits agricoles qui a cette maladie aujourd'hui. Et au final, il faut pas oublier, lorsqu'un produit est vendu, le seul gagnant, c'est celui qui vous le vend à la fin. C'est pas celui qui au début qui l'a produit. Et ça, on le voit dans tous les produits agricoles.
La proximité, la durabilité par la proximité, c'est le credo aujourd'hui.
C'est fondamental. C'est la proximité.
Parce que j'ai une question qui pique après.
Mais avec grand plaisir. C'est fondamental parce que la proximité, c'est quoi? C'est surtout la traçabilité. Lorsque vous avez des questions, vous avez envie de besoin d'informations, votre producteur, il est là, il peut répondre à ces questions-là. Lorsque vous achetez un produit qui vient de 7, 8, 20 000 kilomètres, vous n'avez aucune trace. Vous avez peut-être un certificat qui vous dit qu'il y a une norme durable. Permettez-moi, dans certains certificats, d'avoir des doutes quand même, parce que, avant tout, une certification, c'est, on paye quelqu'un pour nous le contrôler. On a vu par le passé que c'est pas toujours quelque chose de crédible.
Mais pourquoi alors on va en Chine, au Japon, aux États-Unis pour essayer de maintenir ce 1% d'exportation des vins suisses?
Et alors, c'est là l'effet un petit peu bizarre, c'est que pour donner de la crédibilité des vins suisses sur le marché suisse, on a besoin d'être existant sur le marché international. Et c'est donc nécessaire
que nos visiteurs futurs sachent qu'il y a des vins en Suisse.
Et surtout que les médias internationaux, dont la majorité des gens lisent ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les magazines imprimés, lisent des reportages sur les vins suisses et aussi répondent à une demande. Parce que c'est un peu bizarre à dire ça, mais on reçoit aussi de la demande d'importateurs, de consommateurs dans certains marchés qui souhaiteraient avoir des vins suisses, principalement des cépages indigènes. C'est là où on revient sur le fait de goûter le goût de la Suisse, en disant la Suisse c'est incroyable, on est venu Suisse, on aimerait encore quelques bouteilles, et on doit répondre aussi à cette demande-là. Mais les marchés prioritaires à l'exportation aujourd'hui restent en Europe déjà, en priorité. L'Allemagne, la France, la Belgique sont des marchés pour nous qui sont très importants et qui sont un lien au final avec le tourisme. Il faut voir le lien.
Alors
aussi.
Justement, vous avez un partenariat avec Suisse Tourisme. Il faut que les vins, et ça tombe sous le sens finalement quand on y réfléchit, fassent partie de l'expérience touristique de la Suisse, comme le beau paysage, comme le bateau sur le lac.
C'est exactement ça. Lorsque vous prenez un client américain ou asiatique qui va venir en Suisse pour un voyage et qui aimerait découvrir et goûter la Suisse, la case vin doit faire partie de l'échiquier. Mais s'il n'en a pas entendu parler une fois ou on n'a même pas parlé dans des supports de promotion, il n'aura peut-être même pas le réflexe de le faire. Et si en plus dans nos restaurants respectifs ou nos hôtels, on n'a pas le réflexe non plus de proposer quelque chose de local, on a loupé une coche.
Ça existe encore ça? Qui n'est pas que du local, je l'entends, mais qui n'est pas du tout, ça existe ça?
Alors, de moins en moins, ouais. Je crois qu'il y a une prise de conscience parce énorme de la restauration
là-dessus. J'avais le mot paradoxalement qui venait, mais ce n'est pas un paradoxe, mais il y a une claire tendance. Aujourd'hui, les vins suisses sont en premier, il y a des choses excellentes, il y a des gens au service qui les proposent, qui les mettent en avant, en tout cas l'expérience client que j'ai moi.
Oui,
bon, c'est peut-être dans nos deux cantons vitis, Nicole, c'est possible.
Mais vous savez, ce n'est pas les meilleurs endroits pour croire que tout est beau et tout est rose. J'ai vécu une dernière expérience au cœur du Valais, où quand je m'assieds juste pour prendre un verre d'apéritif à 18h30, j'ai dû demander si je peux au moins avoir un vin local. Donc j'ai vécu cette petite expérience un peu rigolote et ils en avaient, donc c'était un réflexe peut-être pas inné. Donc il faut pas croire que le canton de Vaud, le canton du Valais, c'est acquis par rapport au reste de la Suisse. Ce travail, il doit être global. Oh. Mais si on prend l'exemple de la restauration, je pense qu'il y a vraiment eu un changement, il y a une volonté aussi de défendre le local. Je viens d'entendre encore un reportage à la radio de vos confrères de la RTS qui faisait un reportage sur un restaurateur de la Riviera et qui avait fait un choix sur un restaurant avec 70 km de distance pour l'ensemble de ses produits et la carte des vins, la question, là aussi on a respecté cette condition. Donc ça c'est nouveau, c'est novateur et là on se rend compte qu'il y a aussi un changement qui est opéré dans beaucoup de restaurateurs. Donc ça me réjouit aussi que ce travail perdure aussi dans d'autres secteurs, le mien d'origine, puisque je viens quand même de la gastronomie avant tout, a pris aussi ce chemin de la proximité.
Bon, j'aimerais qu'on termine, il nous reste quelques minutes sur le climat, vous l'avez abordé, ça fait partie des écueils, des problèmes, ça peut faire partie des opportunités aussi, hein. Après tout, il y a du vin qui pousse en Méditerranée, donc on part pas du principe que c'est la culture la plus en danger avec les quelques degrés qu'on nous promet. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Vous le voyez-vous comme une chance ou comme un écueil?
Les deux. La difficulté de la durabilité, elle est constante. Je crois qu'aujourd'hui, tous les accidents climatiques qui arrivent avec des problématiques autour de la montagne, autour des fleuves, autour des lacs, des pluies fortes.
C'est ça, des météos plus instables et plus
grêles, gel, etc. Ouais. Donc ça, c'est le côté négatif. Et le côté positif aussi, de retravailler nos cépages peut-être indigènes qu'on avait dit pas assez productifs parce que manque de maturité. Peut-être travailler avec la recherche aussi agronomique. On a la Suisse un grand centre de recherche sur les cépages hybrides ou qu'on appelle PIWI dans la terminologie interne, qui est un peu protection aux champignons et qui, pourquoi pas, je crois qu'il faut profiter des opportunités. On a aussi des cépages qui ont difficulté aujourd'hui avec la chaleur. La Suisse a un grand défi avec ses pinots noirs, principalement le Valais, l'exemple, de gérer la chaleur du pinot noir, c'est difficile. Ils changent de technique à la vigne principalement.
Plus les feuilles.
On a, par exemple, il y a les viticulteurs, ça fait des dizaines d'années qu'ils cherchent en réalité. Et donc, moi, j'ai pas peur, ils vont être prêts. D'ailleurs, on a aucun vin chez nous aujourd'hui qui sont brûlés. Donc, on voit que nos viticulteurs, depuis très longtemps, ils sont adaptés au climat. Donc, il y a une opportunité à continuer ce travail-là, au contraire.
À cet égard-là, on a un projet dans le Chablais, là, c'est Yvonne Grandeur Nature. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, vu de Berne, mis à part l'amitié pour la région que vous pouvez avoir? C'est un exemple?
C'est un magnifique exemple d'initiative régionale. Des fois, on veut trop faire quelque chose de trop national et attendons un régime trop strict de loin, et peut-être trop lointain. Là, c'est une initiative de productrices et producteurs qui ont la même vision, qui s'engagent, qui
pour le rappeler, avec un projet de durabilité globale, dans toutes les strates du métier, finalement, essayer d'aller vers la durabilité.
Voilà, avec une vision qui est la même pour tout le monde. Et puis surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils échangent de ce qu'ils font. Ils se le gardent pas pour eux. Donc c'est une initiative, pour moi, un peu un projet pilote qui est novateur. On en a d'autres comme ça en Suisse, peut-être moins connus parce que c'est peut-être pas dans la région pour Radio Chablais. Mais on a d'autres projets pilotes qui ont été imaginés dans le même tas d'esprit. Et nous, on se réjouit. Ça démontre qu'on n'attend pas d'une structure admin des solutions, mais que la production elle-même se prend en main pour développer quelque chose. Et ça, je pense que c'est peut-être la grande différence avec d'autres secteurs économiques.
Bon, les agriculteurs doivent se réapproprier la terre, hein, c'est eux qui savent. C'est important.
Sans eux, on n'est rien.
Bon, j'aimerais qu'on termine. C'est un peu moins joyeux, mais c'est vrai que en venant vous voir, j'ai ouvert quelques articles. Je vois que enlever de la vigne pour mettre autre chose, c'est de plus en plus commun. On connaît les problèmes de morcellement de parcelles, de gens qui abandonnent parce que c'est trop dur ou parce qu'il n'y a pas assez de parcelles, etc. Il y a des grandes maisons qui ont des difficultés financières. Comment il va ce monde-là?
C'est exactement l'image qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a un défi entre ce que l'on produit et ce que l'on consomme. Et en tant que directeur de promotion, on se préoccupe pas de la production. C'est pas notre mission. Notre mission, elle est dans l'image et la volonté de donner envie. Mais c'est vrai qu'on est tout autant préoccupé de ça parce que les producteurs, il faut qu'ils arrivent à nous faire des produits d'exception. Et si le mental n'est pas là, on va le ressentir dans le produit final. La question aujourd'hui de réguler encore plus la production, soit par les quotas de production, soit par l'arrachage, c'est des techniques qui sont là sur la table et que la production doit choisir quel chemin ils vont faire. Personnellement, je pense qu'il est nécessaire d'adapter un tout petit peu l'offre par rapport à ce que la demande du consommateur et de ses attentes est bien là. Et ça n'empêchera pas d'adapter. Alors ça peut être par de la régulation de production, ça peut être peut-être par de l'arrachage, ça peut être par du remaniement de surface agricole. Ça veut dire que potentiellement une durée limitée, on enlève de la vigne et on y plante autre chose d'agriculture à la place. Pourquoi? Simplement pour ce qu'on produit, c'est le top et ça correspond à des consommateurs.
C'est l'envie en tout cas du directeur de Swiss Wine Promotion. Merci à vous, Nicolas Yos.
Mais merci.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Supplément. Ananas. sur Radio Chablais. Ah
bah. Et dire que la jeunesse qui rentre de l'école écoute nos bêtises. Oui. Bastien, salut.
Salut. Salut cette équipe, salut Loïc. Aujourd'hui, je me mets dans la peau d'une personne qu'on connaît tous, mais qui n'est pas forcément appréciée.
Comment ça, tu te mets dans la...
Ouais, dans la peau, direct. Non, pas vraiment dans la peau.
Ah, ok, je l'ai pris au premier degré, je me suis inquiété.
Une mise en situation, imagine, tu réponds au téléphone.
Ouais.
Donc tu dis.
Allô?
Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Bastien, je travaille chez Assurance Assurance. En 2026, les taux vont changer, donc j'aimerais bien vérifier si vos assurances sont à jour. Sur Suisse, vous êtes très bien couvert, mais dans le monde, il existe des assurances assez folles dont vous avez absolument besoin, Loïc.
Moi, en règle générale, je leur réponds, comment avez-vous mon numéro de téléphone? C'est parfaitement illégal, je suis sur de liste noire. Ça raccroche instantanément, ça marche pas mal.
Bah, n'empêche que, justement, je vais te parler un peu de ces assurances qui existent dans le monde, et on va se rendre compte que, bah, en Suisse, on n'est pas assez mal loti, quoi.
Ok, vas-y, on va y.
Est-ce que, Loïc, tu es sûr d'être en sécurité? Tu sais que le danger peut venir d'ailleurs?
Tu veux dire, il y a une assurance contre des aliens, t'es en train de me dire ça?
C'est exactement là où je veux en venir. Aux États-Unis, il y a 6 millions de personnes qui sont convaincues d'avoir été enlevées par des extraterrestres. C'est une véritable étude. Tu peux donc t'assurer contre un kidnapping alien. Vraiment.
Okay.
Montant de la couverture, 10 millions de dollars. Mais attention, il y a une petite ligne en bas du contrat.
Oui, faut, oui.
L'indemnisation se fait à raison de 1 dollar pendant 10 millions d'années.
Ah!
À ce rythme-là, tu vas pas très loin.
Ah, elle est pas mal.
Ouais.
Elle est pas mal. Non, mais il est bon le business.
Mais t'en as besoin. T'en as besoin de cette assurance.
Ah, écoute.
Moi, je vais te faire signer des trucs à la fin de ce truc. Non, vraiment. La deuxième assurance dont tu as absolument besoin, mariage pluvieux, mariage indemnisé. Se marier, c'est un super beau jour, le plus beau jour de ta vie. Sauf si, voilà, si mamie glisse sur le tapis, si le traiteur il fait faillite, et surtout si la météo décide de transformer ta cérémonie en édition gadou. Heureusement, il existe des assurances mariage. En Autriche, par exemple, si la pluie elle ruine ta fête, tu touches 5000 balles.
Voilà.
En Allemagne, certains assureurs ont même prévu 1000 euros pour que les mariés, si les mariés se lâchent au pied de l'autel.
Oh!
Boum, 1000 balles.
Tu récupères 1000 balles.
Et le suivi psychologique.
Ça, je m'excuse. Je m'excuse, c'est presque une invitation, ça. C'est pas une assurance.
N'empêche, il y a un business, hein. Tu vas te marier en Angleterre ou en Écosse, 5000 balles. Paf, 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 les uns vers les autres.
Ouais, mais combien le coûte une assurance? Ouais, la vache.
J'ai aucune idée.
Genre, la vache.
Numéro 3, est-ce que tu fais du golf? Ça t'arrive de faire du golf?
Oh, oui, tous les matins avant le petit déj.
Ah, bah voilà, bah parfait, cette assurance est faite pour toi. Car c'est vrai que le golf, c'est dangereux. Tu vois, t'as un polo bien repassé, petit chariot électrique. Ça semble assez chill, le golf.
Ouais.
Et pourtant, on peut s'assurer pour jouer au golf contre le vol d'équipement, jusque-là, ok. Les blessures causées par une balle rebondissante.
Oui.
Ou un club man luné, si jamais tu t'en prends dans la tronche, que sais-je. Et surtout, contre le trou en un. Parce qu'il y a une tradition dans le golf, c'est que si tu fais un trou en un, et tu dois payer une tournée à tous les autres joueurs, et parfois même à tout le parcours. Et ça peut vite être très cher, donc tu peux opter pour cette assurance qui payera cette tournée.
D'accord, donc une assurance spéciale bon joueur.
Voilà. Et la dernière, et je pense que c'est la plus importante pour toi,
oui.
C'est celle d'assurer son corps.
Oh, fais-moi des avances.
Pour dire, Julia Roberts a assuré son sourire, Maria Carey ses jambes, Kim Kardashian ses fesses, Cristiano Ronaldo ses jambes, elle va 111 millions de dollars.
Est-ce qu'on sait si Rocco Siffredi est assuré?
Je ne sais pas, mais si c'est le cas, ça doit valoir un certain petit budget. Le doigt de Keith Richards, 1,5 million. La voix de Bruce Springsteen, 6 millions. Donc je pense, Loïc, qu'il est primordial que t'assures en tant qu'animateur radio à voix atypique. Il faut que t'assures tes cordes vocales, c'est indispensable.
Pour le montant de 6 dollars.
Alors Loïc, je propose qu'on se rencontre chez vous pour signer tout ça demain matin 10h, c'est bon pour vous?
Oui, ça m'a surpris.
Ah carrément. Bisous.
Supplément, supplément. Ananas sur Radio Chablais. Caramba.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Et puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Cette semaine, dans Montre voir, j'ai transpiré. On est monté à pied dans les hauts du Bouvray pour découvrir la source supérieure du Bouvray. Et je suis du coup avec Yannick, salut.
Salut.
Et avec Olivier, salut.
Salut.
Alors, par rapport à cette source, car aujourd'hui c'est Montre voir, le parcours de l'eau, qu'est-ce que vous avez à voir avec cette source en fait?
Mon job, c'est de contrôler un peu toutes ces sources, les débits, les contrôles de tout ce qui est traitement d'eau, et j'en passe.
Tu es surveillant réseau.
Exactement.
Et toi, Olivier?
Moi, je suis chef service eau potable, donc c'est moi qui suis responsable de distribution
distribution d'eau potable, donc qui encadre les équipes qui travaillent dans la distribution d'eau potable.
Tel chef.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
L'eau qui s'infile dans le sol.
Disons, moi j'ai toujours eu cette image du glacier. Non, c'est de l'eau de pluie.
Entre autres.
Pas que.
Pas que. C'est de l'eau de pluie. Donc ça, ici, il y a de la neige aussi qui fond et puis qui s'infile dans le sol. Puis le sol, il joue un rôle de filtre. Puis après, l'eau ressort. Bah là, on a vraiment beaucoup de chance parce que l'eau, elle est très bien filtrée. Bah, il faut, s'il y a un orage ou, bah, c'est une à deux semaines après seulement que le débit commence à augmenter légèrement. Le sol filtre très bien l'eau et puis on a une eau qui est très, très propre ici qu'on capte.
Et donc, l'été, si d'un coup, on a, je sais pas, moi, deux, trois semaines de canicule, ça peut mettre un peu du chenil dans une source?
Tout à fait. En l'occurrence, ici, au Bouvray, on a une source qui est tellement clean qu'on ne fait quasiment jamais rien. D'ailleurs, c'est la seule source sur notre réseau qui n'a aucun traitement, c'est-à-dire ni UV, ni chloration. On a aussi des membranes d'ultrafiltration sur certaines sources. Et pour le lac Léman, on a vraiment strictement rien du tout. Donc, c'est de l'eau pure source, on va dire, quoi.
Du coup, est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur?
Mais avec grand plaisir.
Ils m'ont donné soif.
Certaines personnes, des fois, ils parlent vite, hein? Puis des fois, on comprend pas tout ce qu'ils disent, c'est vrai.
Montre voir sur Radio Chablais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Thierry Nicolet, bonjour.
Bonjour Loïc, bonjour tout le monde.
La chaleur ne nous arrête pas, c'est avec courage hein, que nous ne renonçons pas à parler de sport, comme tous les lundis dans le mag. On va avoir de la course à pied, de la gymnastique, mais maintenant, là tout de suite, on s'intéresse à l'euro féminin, de basket qui commence dans deux jours.
Et avec l'équipe de Suisse, une première depuis 1956. La Nati aura même l'honneur de disputer le match d'ouverture mercredi à 19h30 face à l'un des pays hôtes, la Grèce, dans une salle du Pirée qui sera sans nul doute chauffée à blanc. La formation est 49e au classement mondial ne sera de loin pas favorite dans un groupe composé donc de la Grèce, de la Turquie et de la France. Mais sa capitaine, la Veuvezane Evita Herbinjar, veut y croire. Interview.
On est vraiment super excités, tout le monde est sur la même longueur d'onde, voilà. On va vraiment là-bas pour essayer d'aller gagner des matchs et faire la surprise.
Pour le moment, comment vous trouvez l'équipe? Dans quelle forme? Vos coéquipières aussi, comment elles se sentent? C'est toujours un peu ce même sentiment qui est partagé d'excitation?
Oui, bien sûr, tout le monde est vraiment super excité. Voilà, on a pu avoir une superbe préparation au Portugal. On a joué des grosses nations comme l'Espagne. Voilà, on savait à quoi s'attendre. C'est des grosses nations, c'était compliqué, mais c'est dans le dur où on apprend le plus. Donc là, on se sent vraiment prête pour le début de la compétition.
Vous parlez de ces matchs contre l'Espagne, contre le Portugal. Vous l'avez dit, c'est des grosses nations. Il y a eu des défaites. Vous vous attendiez à mieux. Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ces matchs-là?
Alors oui, je pense qu'on aurait vraiment pu mieux faire. Après, c'est vrai qu'on a eu une prépa beaucoup plus courte que ces autres nations. Donc je pense que ça fait quand même la différence. Après voilà, comme on dit, la préparation et la compétition, c'est différent. Donc on espère que ça va mieux aller pour la compétition.
La compétition arrive très vite. Premier match mercredi, ce sera face à la Grèce. Match d'ouverture contre le pays hôte. Déjà ça, peut-être parler de ce match-là tout simplement. C'est assez unique de pouvoir vivre ce genre d'expérience, on imagine.
Ouais, c'est incroyable de pouvoir vivre ça avec ce groupe-là. On va faire ce match d'ouverture contre la Grèce. On sait que les Grecs sont chauds. Il y aura 15 000 personnes dans la salle. Donc voilà, on est trop fiers de pouvoir vivre un événement comme ça et on va essayer d'en profiter à fond.
C'est possible de se préparer à ce genre d'ambiance?
Alors non, je pense qu'il n'y a pas une seule fille dans l'équipe qui a vécu un match avec autant de spectateurs dans la salle. Mais voilà, je pense que la pression, c'est pas nous qui l'avons, parce que la FIBA nous a mis 16e sur 16, donc on n'a rien à perdre. Donc voilà, la pression, je pense que c'est les autres équipes qui l'ont, et nous, on va essayer de se donner à fond et de représenter la Suisse du mieux qu'on peut.
Comment est-ce qu'on peut la décrire, cette ambiance dans l'Est de l'Europe? Vous jouez, vous, en Slovaquie. Comment vous pourriez la décrire, cette ambiance? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? On voit des vidéos, évidemment. Comment ça se passe?
C'est à la dure, quoi. On espère que ça va être l'ambiance qu'on attend et qu'on entend.
Ouais, alors ça, il y aura une réponse assez vite. On l'a dit, ce sera mercredi. Un groupe avec la Grèce, la Turquie, la France. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe de Suisse?
Ben voilà, personne nous attend à gagner un match, mais nous, on est sûr de nous. On sait qu'on peut le faire. On va regarder tout le monde les yeux dans les yeux et on va vraiment tout faire pour essayer d'aller chercher un match, quoi.
Vous les connaissez un petit peu, ces adversaires. On imagine que vous les avez étudiés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, bien sûr. Bah, il y a des joueuses que des grosses joueuses qu'on peut voir à la télé ou qu'on suit sur les réseaux sociaux. Donc, bien sûr qu'on les connaît bien. Et voilà, on sait très bien que ça va être dur. Mais voilà, on est des sportifs de haut niveau et on doit rêver grand. Donc, on va tout faire pour.
L'objectif, c'est quoi ? Aller chercher une victoire ?
Oui, aller chercher le plus de victoires qu'on peut. Voilà, on sait que ça va peut-être être plus possible contre la Grèce ou la Turquie que voilà la France qui est quand même, je pense, le présumé du titre. Mais voilà, déjà, on va se focaliser sur ce premier match et puis on va tout faire pour aller le gagner.
Vous parlez de la France, une des équipes favorites hein, de la compétition. Comment vous allez l'aborder, cette confrontation ? C'est quoi ? C'est un match de gala ? C'est un match comme un autre ?
Ouais, je pense que bah, personnellement, en ayant joué presque 10 ans en France, pour moi, c'est comme vous avez dit, un match de gala. C'est des filles que je regarde à la télé, que j'admire, c'est des inspirations. Et pouvoir jouer contre des joueuses comme ça, bah, c'est juste une expérience à prendre et que j'oublierai jamais.
Ouais, c'est ça, c'est que ça n'a pas commencé, mais c'est déjà une expérience, vous le savez, que vous ne pourrez pas oublier, c'est ça ?
C'est ça. C'est cette qualification pour l'Euro, c'est un rêve, donc on va le vivre à fond.
Et la Suisse affrontera ainsi la Grèce mercredi, puis la Turquie jeudi et la France samedi. Avant, pourquoi pas, on le verra, une qualification pour la suite de la compétition.
On aimerait tellement Hop Suisse !
Radio Chablais, programme de nuit.
Du basket, ben on traverse la porte et on passe à la course à pied. Thierry, tu es allé prendre des nouvelles de François Leboeuf, un coureur aiglon qui a repris son activité il y a seulement quelques semaines.
Ouais, vous avez pu l'apercevoir sur la montée d'Illier, le tour du Val-de-Bagne ou encore hier sur la Nérivue-Molaison. Mais avant cela, le tout juste quarantenaire avait connu une double opération au mois de janvier. Ses deux pieds étant touchés par le syndrome d'Aglun, d'une excroissance osseuse à l'arrière du talon qui peut irriter le tendon d'Achille. Jamais François Leboeuf n'avait connu de pause forcée aussi longue que celle de ce début d'année. Une convalescence qui a même changé son rapport à la course à pied. On écoute François Leboeuf.
J'ai utilisé ce calme-là pour réfléchir. Et puis ce qui en est ressorti assez clairement, c'est que j'avais envie de continuer à faire le sport. Donc ça, c'était pour la qualité de vie, mais pas à n'importe quel prix. Donc je me suis rendu compte que j'étais pas invincible. Donc, parce que pendant 10 ans, j'avais couru vraiment beaucoup sans aucun problème. Puis j'avais un peu l'impression que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Puis finalement, ça, c'était bon. Puis là, j'ai vu quand même que fallait aussi que je fasse attention. Bon, je viens aussi, là, je viens d'avoir 40 ans. Et puis qu'il fallait, si je voulais continuer à faire du sport pendant longtemps, de manière saine, ben, il fallait que je mette des priorités. Et puis une chose qui est ressortie aussi, c'est que, bon, que moi et Thérèse, en même temps, les deux, on peut pas essayer de courir à haut niveau parce que ça fonctionne pas, ça fait trop. Puis là, c'est vraiment son tour. Elle a encore un potentiel de progresser. Et puis moi, j'ai eu mon tour, si on veut, aussi, avant. Donc c'est bien si elle peut le faire. Puis j'ai aussi vu que les enfants, eux, ils courent de plus en plus aussi. Puis j'ai envie d'être là pour eux dans leurs pratiques sportives. Puis c'est vrai que si moi, j'essaye de courir beaucoup aussi en même temps qu'eux courent, ça, j'arrive pas à être là aux entraînements puis à peut-être aussi les accompagner comme je voudrais le faire. Donc ça, c'est aussi ressorti comme une priorité absolue, si on veut. Donc peut-être être là pour les enfants, pour les déplacements, le coaching, puis... C'était aussi une question peut-être aussi d'organisation dans ma vie aussi, avec le travail et tout ça, qu'on jonglait, puis... Donc, je trouve que ça a été intéressant. En tout cas, j'en suis ressorti plus zen, en tout cas, de ça. Puis je sais un peu plus où je vais avec le sport aussi. Donc, ça fait plaisir.
Ouais, il y a vraiment un avant et un après, cette double opération.
En tout cas, pour moi, oui. Puis c'était, je pense, un peu l'occasion de faire une transition qui me permettrait de continuer dans le sport. Donc, maintenant, j'essaie de regarder moins les chronos puis de me concentrer plutôt sur le ressenti, sur l'expérience. Et puis, ça ne veut pas dire que j'essaie pas d'être bon. Donc, j'ai encore envie d'être compétitif, mais je pense que ça serait une erreur d'essayer de... Comme par exemple, bon, je vais sauter déjà. J'ai fait une Nérivue-Molaison, par exemple. Bon, j'étais à 4 minutes et demie même de mon meilleur chrono. Ben, après, ça ne m'a même pas dérangé, en fait, parce que déjà, je m'en attendais un peu parce que je reprends. Mais vu que l'expérience était positive et tout ça, puis j'avais accepté déjà au départ l'idée que j'allais marcher plus que normalement, j'aime bien courir presque tout, sauf peut-être le dernier bout un peu. Donc j'étais prêt à ce que ce soit comme ça, puis c'était pas important. Puis j'étais content de l'avoir approché comme ça, parce que du coup, ça met pas de pression, je pars dans un rythme qui est adéquat, puis j'ai une expérience qui est plus positive. Puis je pense que si je l'approche comme ça, puis ça va me permettre de faire du sport plus longtemps, puis avec garder le plaisir aussi.
Vous avez remarqué peut-être sur la course, vous venez d'en parler, Nerivu-Molaison, qui était ce week-end, que vous avez pu peut-être plus profiter que d'habitude?
Oui, quand même, parce que c'était comme par exemple du moment où je me disais, OK, là, ça venait dur, par exemple, et je voyais que j'étais un peu limite. Je me disais, OK, je marche, puis c'était correct de marcher. Puis bon, tu marches, du coup, tu as le rythme cardiaque qui baisse, et puis tu lèves la tête un peu plus. Et puis c'est vrai que ça change un peu d'être toujours vraiment regarder le chrono. Puis à la fin, tu te prends un peu au jeu sur le dernier bout, parce qu'avec les gens qui sont autour de toi pour essayer d'arriver. Donc, tu as quand même ce petit thrill-là, mais en même temps, disons que tu joues pas ta vie là-dessus. Donc, ça change. Puis en tout cas, ça m'a fait du bien. Après, j'ai aussi vu quand même que j'avais fait le tour de Val-de-Bagne 2 semaines avant. Et puis ça, c'était vraiment, vraiment bien passé. Mais c'était plus court. C'était 26 minutes sur un parcours qui me convient mieux. Puis le parcours, c'était moins technique aussi. Donc, j'avais les meilleurs appuis pour les pieds. Alors là, j'avais moins senti finalement ce déficit peut-être d'entraînement. Puis encore le fait que mes pieds sont vraiment bien revenus. J'ai retrouvé la force dans le pied, mais ce qui manque encore, c'est un peu la stabilisation. T'sais, je le sens, par exemple, quand je cours en descente ou là, quand même en montée, je le sentais, pas à cause de la pression, mais des fois, t'as pas les appuis solides quand tu pousses sur les pierriers et tout ça. Et puis, ça me gênait plus que disons, si c'était de l'asphalte ou... Puis c'est vrai que dans la rééducation, j'ai fait beaucoup de tapis roulants au début parce que c'était plus facile à contrôler, c'était plat. Je pouvais m'arrêter quand je voulais. T'sais, dès que je sentais que le pied fatiguait, je m'arrêtais. J'avais le grand dos à côté pour aller mettre les pieds dans l'eau froide et puis faire de la récupération directement derrière. Donc ça, c'était plus facile comme ça. Mais là, je vois quand même qu'il y a encore un peu... Mais c'est bien, ça me donne encore des choses à travailler pour la suite.
Quel est le tracé idéal pour vous aujourd'hui en course? Quel profil?
C'est vrai que le fait d'avoir 40 ans, ça me permet un peu de retrouver les podiums que j'avais plus en élite. Finalement, j'arrivais plus à avoir le niveau. Puis là, c'est vrai que ça me redonne un peu de motivation pour retourner dans les grandes courses puis essayer de faire des podiums justement en M40. Puis alors que là, maintenant, c'est possible de le faire. Donc, ça change un petit peu. Puis ça me fait penser, déjà, il y a par exemple les championnats suisses le week-end prochain. Donc, je vais certainement pas jouer le podium élite.